Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangou a pour interrogation principale: pourquoi une loi créant l'autorité de régulation du secteur de l'eau au Niger? Le 14 mai, le Parlement nigérien a entériné le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation du secteur de l'eau. Cette structure prend en charge la régulation du sous-secteur de l'hydraulique urbaine tout en assurant son développement, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre l'importance de l'adoption de la loi portant création de l'autorité de régulation du secteur de l'eau, les défis liés à l'accès des Nigériens à une eau suffisante et de qualité, ainsi que les perspectives. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Abou Kouré Jakou, ingénieur hydrogéologue au ministère de l'Hydraulique. Abou Kouré Jakou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et Ousmane Dambaji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Ousmane Dambaji, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Abou Kouré Jakou, quels sont les défis du Niger en matière d'accès des populations à l'eau potable?
Merci de m'accueillir dans votre studio. C'est un réel plaisir pour moi d'assister à cette rencontre. Les défis du Niger en matière d'accès à l'eau sont multiples parce que les ressources sont de nature multiple. Il y a des ressources en eau souterraine, principalement dans la partie ouest de notre pays, dont la grande partie, dans la grande proportion est contenue dans notre cours d'eau, le fleuve Niger, qui draine notre pays sur 550 km et ses affluents. À l'intérieur, vous trouvez aussi des rivières temporaires, des mares, certaines permanentes et d'autres semi-permanentes. C'est ça la partie qui constitue les ressources en eau de surface. Ce potentiel, à l'issue d'une étude de 1990, a été estimé à peu près à 30 milliards de mètres cubes annuels. C'est-à-dire chaque année, en matière d'eau de surface, nous disposons de 30 milliards de mètres cubes. Malheureusement, ce potentiel est très peu utilisé parce que si vous regardez la proportion de ce potentiel qui est mis en valeur, c'est une infime partie. Pour ce qui est des eaux souterraines, le Niger est principalement constitué de deux bassins. À l'ouest, il y a le bassin des îles Minden et à l'est, il y a le bassin du Tchad, séparé par la dorsale géologique qui est constituée par le massif de l'Aïr, relayé par le Damagaram Mounio, le massif du Damagaram Mounio, et puis qui continue sur le plateau de Jos au Nigeria. À l'ouest, il y a des environnements où la ressource en eau souterraine est très faible, c'est le Liptako Gourma. Cette partie ne renferme de l'eau que dans des fractures à des quantités, je ne dirais pas négligeables, parce qu'elles sont exploitées quand même pour satisfaire un certain nombre de besoins, mais difficilement accessibles. Le potentiel tel qu'il a été identifié aussi, tel qu'il a été estimé au cours de la même étude en 90, est évalué à 2000 milliards de mètres cubes. Dans cette quantité, il y a une quantité énorme d'eau fossile. C'est-à-dire, son exploitation veut dire que si on pompe tout, c'est fini, c'est une exploitation minière. Et voilà.
Ça peut s'épuiser.
Ça peut s'épuiser, mais quand vous regardez quand même la proportion pour l'épuiser, c'est des années et des années. Il y a une partie renouvelable à peu près à 20%, donc autour de 250 milliards de mètres cubes. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne très grossièrement les ressources en eau. Et certaines ont des problèmes de qualité. Ces ressources à nous, on ne peut pas les utiliser sans les traiter. D'autres sont de qualité exceptionnelle. Et en ce qui concerne les eaux souterraines, je dois dire quand même que la profondeur varie. Vous trouvez des eaux souterraines qui affleurent par exemple dans la partie du Dalol.
Affleurent, ça veut dire
c'est-à-dire qui sortent
de surface.
Urgentes, ouais, qui sont à la surface. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir y accéder. Par contre, certaines, il faut faire des forages qui vont jusqu'à 800 mètres, notamment dans la région de Tawa, par exemple, et aussi dans certaines parties...
Vers Dakoro,
400 mètres. Si vous faites un forage qui fait 100 mètres, vous êtes satisfait. Mais là où on a des problèmes, c'est franchement dans le centre du bassin des huiles liminaires. C'est là où...
C'est vers où
Si je vous parle du centre, c'est pratiquement Tawa, Takanamat, il est là, toutes les zones avoisinantes. C'est ça le centre du bassin des huiles liminaires. Et la ressource en eau, elle est relativement profonde. Les ouvrages pour pouvoir la mobiliser sont relativement profonds pour des activités hydrauliques. Donc voilà, grosso modo.
Mais là-bas, l'eau est de bonne qualité?
De bonne qualité. Il y a des endroits où elle est chargée en fer. Et ce qui n'est pas bon ni pour la santé, mais aussi pour les installations, parce qu'il y a l'aspect corrosif qui est là, qui accélère,
peut attaquer les installations.
Voilà, qui accélère la dégradation, le vieillissement des installations. J'ai oublié de vous parler de l'Aïr aussi, qui est particulièrement caractérisé par le socle, et les ressources aussi se trouvent dans les fractures en faible quantité. Mais il y a quand même au sein de l'Aïr des endroits où vous trouvez des eaux de surface telles que
les
oasis. Voilà, Timia, c'est un cas très illustratif. Et il y a d'autres oasis où vous trouvez des eaux de surface malgré une pluviométrie
irrégulière.
Non seulement irrégulière, mais aussi faible. Parce que Agadez, s'il pleut dans l'année, dans cette zone-là, 100 mm, c'est beaucoup. Or, au sud, vous trouvez à Gaïa des années où il pleut jusqu'à 800 mm. Pour vous dire la différence qu'il y a entre des zones soudaniennes de Gaïa et puis des zones périsahariennes comme Agadez et le massif de l'Aïr. Plus au nord-est, dans la zone de Bilma Djado, vous trouvez des eaux de très bonne qualité, d'accès facile. Par exemple, la Bilma, c'est un forage qui a été fait dans les années 80 et puis qui n'a pas pu être maîtrisé. L'eau était artésienne et puis il y a des dégâts. Et puis actuellement, même, ça constitue une préoccupation pour les populations. Donc voilà, le tour un peu vraiment très grande, dans les très grandes lignes du potentiel dont on dispose.
Aboukouré Jakou, quelle est la mission principale de la toute nouvelle autorité de régulation du secteur de l'eau?
Bien, merci. Je voudrais d'abord, avant de parler des missions de cette autorité, corriger quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. En fait, le projet de loi, ce n'est pas pour réguler que les activités dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine. C'est pour réguler toutes les activités dans le secteur de l'eau. Dans le secteur de l'eau. Et pour rappel, on avait, à partir des années 2000, quand il y a eu la réforme du sous-secteur de l'hydraulique urbaine, mis en place une autorité de régulation multisectorielle qui régulait les activités de 5 secteurs, que sont les télécommunications, l'eau, l'énergie, les transports et la poste. En 2012, le gouvernement a décidé de réorganiser cette autorité de régulation multisectorielle en créant une autorité qui est centrée sur les télécommunications et la poste. Et il a demandé au ministère de tutelle des 3 autres secteurs que sont l'eau, les transports et l'énergie, de voir comment prendre en charge la question de régulation qui a été initiée par l'ARM. Ce que je veux dire pour l'eau, c'est que de 2000 à 2012, la régulation s'est centrée sur le sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réforme, parce que la société qui avait en charge la question de l'hydraulique dans le périmètre urbain était confrontée à un certain nombre de problèmes et ne pouvait pas continuer de la sorte. Donc on a fait une réforme qui a abouti à la création de 2 sociétés. Une société d'exploitation qui est de droit privé nigérien, qui est détenue par un repreneur stratégique en la personne de Veolia Environnement à 51%. 34% de ses actions sont détenues par des privés nigériens, 10% par le personnel de la nouvelle société qui est qui a été hérité de la Société nationale, de la défunte Société nationale des eaux, et 5% par l'État du Niger. Et la deuxième société, c'est la Société de patrimoine des eaux du Niger, qui est une société à 100% détenue par l'État du Niger. Les fonctions sont complètement séparées et très clarifiées. Pour la SPEN, il s'agit de gérer le patrimoine, le consolider et le développer. Faire en sorte que les installations qui doivent concourir à la production, au transport et à la distribution de l'eau potable en milieu urbain soient toujours à la hauteur des sollicitations, à la hauteur de l'expression des besoins faits par les populations. Tandis que la SEN, sur la base d'un contrat d'affermage, exploite ces installations en tant que fermier. Donc voilà pour ce qui est du démarrage de la régulation. Et la régulation devrait permettre un jeu d'acteurs entre les différents acteurs. Les différents acteurs, c'est quoi? C'est d'abord l'État du Niger, qui est responsable de la politique en matière de ressources en eau, responsable de la tarification. Et le deuxième acteur majeur, c'est la SPEN, comme j'ai eu à vous l'expliquer, qui est responsable du patrimoine. Et le troisième acteur, c'est la SEN, qui est responsable de l'exploitation des installations. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'a commencé la régulation dans le secteur de l'eau. Quand il y a eu dissolution de l'ARM, création de l'ARTP, au niveau du ministère, ils ont créé un organe en charge de la régulation pour continuer les activités de l'ARM et on a greffé, en plus du secteur de l'hydraulique urbaine, le secteur du semi-urbain. C'est toujours dans l'eau, mais encore dans deux sous-secteurs de l'eau. Le sous-secteur semi-urbain, c'est quoi? C'est les gros villages qui sont dotés d'installations simplifiées d'alimentation en eau potable. Ce ne sont pas les puits et les forages équipés de pompes à nutrition humaine. C'est ce qu'on appelle les mini-adductions en eau potable qui peuvent être au niveau d'un seul village ou alimentant plusieurs villages, mini-AEP, multi-villages, ou des postes d'eau autonomes, c'est-à-dire des petits villages de 1000, 1500 habitants, et on leur fait des installations relativement simples et avec quelques bornes fontaines pour pouvoir être alimentés en eau potable. Et les stations de pompage pastoral, parce que les stations aussi constituent un autre pôle d'activité dans le sous-secteur semi-urbain. Parce que, en plus, les stations de pompage pastoral sont d'abord fondamentalement dédiées pour l'alimentation en eau du cheptel. Mais quand vous parlez de cheptel, il y a ceux qui ont le cheptel avec eux. Il y a ceux qui gardent le cheptel, qui vivent avec leur cheptel. Donc il faut faire une politique de façon à faire d'abord satisfaire les humains et
satisfaire aussi leur cheptel
en zone pastorale. Donc c'est ça la vocation des stations pastorales. Alors ce semi-urbain, il a connu des déboires parce qu'on a commencé à créer ces installations dès les années 80 au profit de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Quand on les a créés, c'est que vous faites une installation qu'il faut gérer, qui procure plus ou moins de ressources financières et il faut les gérer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme mécanisme au départ? C'est qu'on les met dans les mains d'un comité de gestion. C'est-à-dire au niveau du village, on demande aux gens de s'organiser pour désigner un groupe de personnes, maximum 10, pour pouvoir gérer ces installations-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que c'est que ces installations. Et certaines ont vu là l'occasion de se faire une santé financière. Et résultat final, c'est que la gestion était tout sauf performante. Donc, de réflexion en réflexion, en 2010, on a adopté ce qu'on appelle un guide du service public de l'eau en milieu semi-urbain. Ce guide, comme orientation principale, il a dit qu'il faut maintenant créer les conditions pour que les installations soient mises en gestion déléguée. C'est-à-dire qu'on prend un opérateur qui est censé être un professionnel. C'est-à-dire qu'il connaît ce que c'est que l'électromécanique, il connaît ce que c'est que les forages, il connaît ce que c'est que la gestion, même si c'est sommaire. Et on lui confie ces installations-là avec un cahier de charge, avec un contrat avec les communes, puisque ça a commencé aussi l'exercice de la communalisation. Donc les délégataires sont liés aux communes avec un contrat de délégation. Donc voilà où on était avant l'arrivée de l'ARSO. Donc on est parti de la régulation de l'hydraulique urbaine, puis de la régulation du sous-secteur urbain et semi-urbain. Et maintenant, on a élargi ça au niveau du secteur global de l'eau. Pourquoi?
Parce que, en fait, si vous regardez notre pays, il a la caractéristique d'être un pays sahélien. Malgré tout ce qu'on a dit sur le potentiel, l'eau est un enjeu important. Elle conditionne le développement, elle conditionne la vie tout court. Il y a beaucoup d'intervenants. Rien qu'à Niamey, si vous sillonnez les villes, vous trouvez des gens qui érigent des châteaux d'eau dans leur maison, etc., etc. Ça, là, on ne peut pas se permettre de laisser faire. Vous trouvez aussi, en campagne ou en région, des gens qui créent des installations sans se soucier des dispositions légales qui existent et qui les exploitent à leur guise, avec tous les risques que cela comporte. Il y a des installations qui sont, dans certaines localités, collées aux fosses septiques. Alors vous imaginez le péril qu'ils font vivre à eux-mêmes et à leurs concitoyens. Certains le font avec bonne intention. Ils disent, bon, du point de vue religieux, si vous mettez à la disposition de vos prochains de l'eau, c'est bien. C'est vrai. Mais il faut s'assurer que l'eau que vous mettez à la disposition de vos
proches
est de bonne qualité. Que ça ne constitue pas une source de problèmes sanitaires et peut-être même une source de mort à ces gens-là. Donc c'est ça, fondamentalement, qui est à la source de la création d'une autorité de régulation du secteur de l'eau. C'est-à-dire prendre en charge toutes les questions qu'on vit dans le secteur de l'eau et les gérer. Parce que la régulation, il faut se dire une chose, d'abord, elle a pour essence d'éviter les abus. Réguler, c'est éviter les abus. Et les abus, on les constate de partout, qu'ils soient techniques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sanitaires. Il faut qu'on les évite. C'est-à-dire que les installations qu'on mette, on n'empêche à personne de faire une installation. Mais il faut d'abord se conformer aux lois et règlements. La première loi qui organise l'exploitation des ressources en eau, c'est le Code de l'eau qui a été adopté par l'ordonnance 2010-09 du 1er avril 2010. Et à l'intérieur, en fonction de ce que vous voulez, il y a tout le cheminement qu'il faut suivre. De la déclaration jusqu'au contrat de concession, vous pouvez trouver votre compte si vous voulez rentrer dans le secteur de l'eau. Mais naturellement, l'autorité qui a été mise en place, c'est pour combler un vide de façon à ce que ces activités-là soient suivies, contrôlées et puis aider les gens. D'abord, un rôle pédagogique, un rôle de conseil technique et d'appui, et après, un rôle de police. Au cas où la pédagogie, les conseils ne suffisent pas, en ce moment-là, on passe à la méthode de coercition. Mais on ne souhaite pas en arriver là parce qu'on veut arriver à faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les ressources là que je viens de décrire sommairement, elles nous appartiennent, nous, Nigériens d'aujourd'hui. Les 23 et quelques millions. Mais elles appartiennent aussi
aux générations futures.
Voilà. Elles appartiennent aussi aux Nigériens qui vont venir dans 50 ans. Et si on leur laisse un passif lourd, qu'est-ce que ça va devenir?
Il faut faire une gestion rationnelle.
Voilà. Et l'autorité de régulation du secteur de l'eau est venue pour améliorer, elle est censée venir améliorer la gestion, la rationalité de la gestion de l'eau telle qu'on la connaît dans notre pays. Je ne dis pas que tout est mauvais, loin de moi cette idée-là. On fait des choses, on les fait en fonction de ce qu'on a, mais ce qui manque, c'est principalement l'information. Donc il faut communiquer, il faut expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et il faut expliquer aux gens comment il faut le faire. Donc l'ARSO aura à charge d'abord ces aspects-là et puis après...
Ils sont là pour ça.
Voilà.
Ils sont là pour passer le message.
Nous travaillons avec effectivement des journalistes et je dois saluer quand même l'apport très 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 important du REGIA, en tout cas au niveau du bureau de régulation qui va être remplacé par... comment ça s'appelle? Nous avons travaillé avec le REGIA et franchement, ce n'est pas parce qu'il est en face de moi, les résultats sont à la hauteur de nos attentes.
Ousmane Dambadji, comment le REGIA aborde-t-il les questions liées à l'accès à l'eau potable au Niger?
Bon, merci, Monsieur Mokhtar. Il est très difficile. Tu me mets mal à l'aise hein,
ouais.
de parler devant le grand frère expert, doyen à la matière, parce que c'est eux qui nous ont appris tout ce qui est lié à l'eau, en tout cas l'expertise qui est dans ces domaines, et c'est eux qui nous forment également par rapport à cette thématique de développement très intéressante. Et donc, je suis vraiment très mal à l'aise pour parler de la question devant lui. Mais je vais essayer de répondre effectivement à ta question. Le REGIA, comme vous le savez bien, c'est un réseau de journalistes pour l'hygiène et l'assainissement qui a organisé les journalistes de ce pays de la presse publique et privée autour de la problématique de l'eau pour essayer d'abord de soutenir les actions de l'État et de ses partenaires, mais également faire le plaidoyer pour la levée des fonds dans le secteur. Également assurer les rôles de veille quand, par exemple, il arrive des fois où l'État oublie quand il a promis des choses, et nous sommes là pour rappeler à l'État effectivement ses engagements. Et ensemble, nous formons une très bonne équipe effectivement pour le bien-être des communautés nigériennes. Alors, comme il a dit le grand frère, la question de l'eau est effectivement c'est une question extrêmement importante. Et comme il vient de le dire, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le secteur de l'eau. Comme je l'ai dit, notre rôle, c'est justement de faire connaître aux populations les efforts gigantesques que l'État est en train de faire de l'alimentation en eau potable, que ce soit en milieu urbain ou milieu rural, et effectivement faire des propositions, aider l'État à faire des plaidoyers auprès de partenaires pour la levée des fonds, effectivement, comme je l'ai dit, auprès de bailleurs de fonds. Donc voilà, à ce sens, nous, le REGIA, nous intervenons comme, en tout cas, partenaire stratégique au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement au Niger.
Ousmane Dambadji, le Niger s'est engagé à atteindre à l'horizon 2030 les objectifs du développement durable ODD, notamment l'ODD numéro 6, qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Le Niger a-t-il les moyens d'être au rendez-vous?
Absolument. Le Niger a les moyens, sinon plus que même les moyens, parce que le premier moyen dont le Niger dispose, c'est l'engagement politique. Et l'engagement politique y est. Nous avons également les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est y compris tous les experts qui sont là. Vous avez vu les grands frères qui sont avec nous aujourd'hui pour nous expliquer toute la démarche de l'État par rapport à cette question de régulation. Et on a les ressources également au niveau des journalistes. Vos engagements, nos engagements. Aujourd'hui, grâce à Studio Kalangu, c'est des millions de personnes au Niger et même en Europe qui vont être en tout cas au courant de ce que nous sommes en train de faire. Et l'engagement encore y est parce que le 9 mai 2017, il faut se rappeler que le gouvernement du Niger a adopté un programme sectoriel ou hygiène-assainissement qu'on appelle PROSEIA. Donc c'est à travers ce PROSEIA que le Niger voulait d'ici 2030 en tout cas assurer la disponibilité de l'eau à un coût abordable en ville comme en campagne, d'ici demain, que l'ensemble des communautés puissent avoir accès à l'eau potable. Ça, je pense que c'est un engagement très fort. Et aujourd'hui, vous avez l'engagement des partenaires techniques et financiers. Quand on prend le PEDES, nous, on a été à Paris en 2007 à la table ronde de bailleurs de fonds. On a vu l'engagement des bailleurs extérieurs pour le Niger, principalement dans les secteurs de l'eau. Ceux qui étaient à 500 millions, par exemple, de dollars, ont doublé le financement ou ont triplé. Donc, je pense que c'est un fort engagement pour le secteur de l'eau. Et nous avons des acteurs, comme je l'ai dit, qui sont également de gourdis, qui travaillent pour que le secteur avance. Et quand on regarde aussi la situation, pour comprendre que le Niger est en train de faire des efforts, et aujourd'hui, quand on regarde la comparaison chaque année, les indicateurs augmentent, en ville comme en campagne. Et on était, les grands frères, à parler de 2000, la réforme qui a été engagée dans le secteur de l'eau à aujourd'hui. Il faut dire que c'est plus de 212 milliards qui ont été mobilisés par l'État et injectés pour l'alimentation en eau potable en milieu urbain. Et ça, on a quitté de 2 millions et quelques abonnés à aujourd'hui environ 4 millions d'abonnés. Donc il faut voir les efforts que l'État est en train de faire. Et mieux, nous revenons d'une mission qui a été demandée par le ministre de l'Assainissement il y a 2 semaines de cela à l'intérieur du pays pour aller constater de visu les efforts fournis par l'État et les manquements. Et là, on a vu effectivement les nombreux efforts que l'État avait engagés dans les secteurs d'alimentation en eau potable. Les années où les gens n'avaient pas de forage, ils ont eu un forage. Les endroits où il n'y avait pas de puits, il y avait des puits. Où il y avait un seul puits, il y en a 4 ou 10, où il y a un forage. En tout cas, les efforts sont en train d'être faits. Mais vous voyez, avec la croissance démographique, encore c'est un peu difficile. Il faut aussi l'engagement des acteurs. Les grands frères l'ont expliqué, la gestion déléguée qui devrait être un outil essentiel pour disponibiliser l'eau auprès de communautés. Il a relevé qu'il y a des failles et ils sont en train de mettre, en tout cas, les bouchées doubles pour pouvoir sensibiliser ces gens-là à travers le transfert de compétences pour que chacun reconnaisse son rôle pour pouvoir, en tout cas, réussir ensemble.
Ousmane Dambadji, en dehors du gouvernement de l'État du Niger, qui sont vos partenaires ?
Le Niger travaille avec beaucoup de partenaires extérieurs comme les partenaires nationaux aussi. Et on travaille beaucoup aussi avec tout ce qui est alliance ou coalition ou à l'international. Ce qui fait que, d'abord, ce qui nous a permis d'accéder à cela, c'est l'engagement et le soutien du ministère de l'Assainissement. Parce qu'il ne faut pas le cacher, aujourd'hui, on est devenu une référence au Niger comme à l'international. C'est grâce au soutien du ministère de l'Assainissement. On n'est pas des ingénieurs, mais quand même, on est des journalistes qui ont été formés grâce à l'appui des grands frères qui sont ici. On nous a formés, on nous a donné des moyens nécessaires pour travailler et ça nous a permis effectivement aujourd'hui de parler un peu de l'eau sans aucun problème et connaître la thématique, comment elle se porte et comment apporter notre contribution dans la démarche globale de la situation de l'eau au Niger.
Ousmane Dambadji, comment expliquer une pénurie d'eau dans un pays qui dispose d'importantes quantités en eau de surface tout comme souterraine, malgré les efforts dont vous venez là d'évoquer?
Oui, les grands frères l'ont expliqué en tant qu'expert, en tant qu'ingénieur du domaine, vous a expliqué souvent la question de l'eau, même si nous avons l'eau, il vous a expliqué la situation hydrogéologique de nos sols. Chaque région a sa spécificité. Il vous a parlé de Tawa, où la nappe phréatique, en tout cas la profondeur de la nappe phréatique varie entre 700 à 800 mètres de profondeur, ce qui complique l'approvisionnement des populations en eau potable. On a pris le cas de Zinder, où la nappe pétrographique, en tout cas, ne permet pas la recherche facile d'importantes nappes pour pouvoir alimenter, en tout cas, les populations. Il vous a parlé aussi de régions de fleuves. Vous savez, on peut être à côté de l'eau, mais avoir soif, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas de Niamey. Les Niamey s'approvisionnent à travers le fleuve. Et le fleuve aussi, c'est une eau qui est là, il faut la traiter. Aujourd'hui, le produit de traitement de l'eau coûte très cher sur le plan international. Donc, l'État est en train de faire des efforts. Il va revenir par rapport à ça, il est beaucoup plus expert sur la question. Mais quand
vous voulez dire quelque chose à Boukouré Djakou?
Oui. Par rapport à la question de la pénurie dans les villes, il faut d'abord se dire pourquoi cette pénurie. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand il y a pénurie, c'est que l'offre ne suit pas la demande.
La demande.
C'est aussi simple que ça. L'offre que nous avons, c'est à partir des installations qui sont en train d'être consolidées, comme j'ai eu à le dire. La SPEN est en train de faire un travail gigantesque. Mais il faut voir non seulement la démographie, mais aussi l'occupation de l'espace urbain dans nos villes. Si vous prenez le cas de Niamey, il y a 10 ans, c'est juste une ville relativement réduite. Aujourd'hui, si vous partez du centre-ville jusqu'à 30 kilomètres, c'est occupé, n'est-ce pas?
Oui.
Et il faut satisfaire tout ce monde-là. On est parti de, comme il a dit, en milieu urbain, on est parti d'une population qui tournait autour de 1,6 million à satisfaire, à aujourd'hui une population qui frôle 4 millions. Et malgré tout ça, je pense que et la SPEN et la SEN tiennent le rythme. La pénurie se sent au moment où il fait très chaud, quand il y a rupture du courant électrique, parce que le contrat d'affermage qu'on a contracté avec la SEN, il est basé sur le fait que c'est à la Nigelec.
La disponibilité de l'énergie électrique.
À la Nigelec, pas sur le groupe. Parce que si c'est sur le groupe, le prix du mètre cube...
Ça va augmenter encore.
Voilà. Donc il faut comprendre cela. Est-ce que les communes font une politique d'occupation de l'espace maîtrisé? Parce que normalement, quand vous achetez un terrain, il faut vous assurer de l'eau, de l'électricité et des routes. Est-ce que ça se fait à Niamey? Je ne crois pas. Donc voilà, ce sont des problèmes qui nous rattrapent, qui ne sont pas forcément spécifiques au secteur de l'eau, mais qui nous rattrapent. Donc voilà, et ça c'est valable pratiquement pour toutes les villes du Niger. Toutes les villes que vous avez vues, l'urbanisation, quand le taux de croissance moyen au Niger il est de 3,3%, l'urbanisation se tourne autour de 7. Je parle sous le contrôle peut-être des statisticiens qui commencent à s'appeler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est supérieur à la moyenne nationale. Donc voilà ce que je voulais. Et puis, il y a aussi le phénomène de la population flottante.
Flottante, ça veut dire?
Voilà, je m'explique. Quand la saison des pluies arrive, personne ne parle de problème d'eau à Niamey. Parce que pratiquement 200 à 300, voire plus, les personnes sont reparties au village travailler la terre avant de revenir. C'est ça la population flottante, n'est-ce pas? Et ça permet aux installations d'être à même de fournir la quantité d'eau que les gens qui sont restés là, qui sont vraiment les habitants de Niamey, d'être satisfaits. Mais pendant la saison 16, tout le monde se réfugie
à Niamey.
À Niamey. Et la demande augmente. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Naturellement, il faut aussi appuyer sur les investissements. Tout à l'heure, il a parlé de, des investissements qui ont été faits de l'ordre de 212 milliards de 2001 à 2017. C'est vrai. Mais il y a aussi d'autres investissements. Aujourd'hui, à Niamey, il y a une station de traitement qui est en train d'être réalisée et qui va permettre de combler le gap là de 43 000. Parce que sa capacité tourne autour de 40 ou je sais pas, un peu plus pour pouvoir satisfaire la demande. C'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Je pense qu'au lancement, c'était 53 milliards. Pour vous dire que l'État du Niger fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins. Les efforts qui se font en milieu rural, c'est pareil en milieu rural.
Abou Koudjakou, parlez-nous à présent des missions de l'autorité de régulation du secteur de l'eau.
Oui, Niger. Merci. Et tout à l'heure, effectivement, vous m'avez posé cette question, mais on était parti dans d'autres considérations. Mm-hmm. Et les missions, comme je vous l'ai dit, ça s'étend au niveau du secteur de l'eau, de manière globale. Et on retiendra 6 missions essentielles. La première, c'est de veiller à l'application des textes législatifs réglementaires régissant le secteur dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. C'est-à-dire, tout celui qui veut intervenir dans le secteur de l'eau, il y a des textes qui régissent ce secteur-là. Il faut le lui appliquer en toute transparence, de manière objective et non discriminatoire. Chaque Nigérien a... C'est un droit consacré par la Constitution. Chaque Nigérien a le droit à l'accès à l'eau. La deuxième mission, c'est protéger les intérêts de l'État, des utilisateurs, des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans le secteur, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les trois catégories d'acteurs-là, chacun trouve que ses intérêts soient protégés. Que l'État ne vienne pas écraser les petits usagers, ou que les petits usagers oublient qu'il existe un État, ou que les opérateurs essayent de tirer la couverture sur eux. La troisième mission, c'est de promouvoir le développement efficace du secteur en veillant notamment au maintien d'une concurrence effective, à l'équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité. C'est-à-dire, il faut que le secteur, de par les activités qui sont menées, qu'on trouve toujours un équilibre économique, financier, mais surtout garantir l'accès aux générations futures. La quatrième mission, c'est mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs prévus par les lois et règlements. C'est-à-dire, les usagers, in fine, c'est eux la cible. C'est-à-dire, quand vous êtes usager, c'est sur vous que l'attention doit être concentrée. Et il faut mettre en place des mécanismes pour vous écouter. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on va faire pour vous, on va faire pour vous. Non. Écoutons les usagers pour qu'ils disent non, ce que vous faites là, c'est bien, mais il reste telle chose. Ou alors, c'est carrément pas du tout ce qu'on attend de vous. C'est ça le rôle de l'autorité de régulation du secteur, la mission de l'autorité de régulation du secteur de l'eau. Cinquièmement, collecter et gérer les ressources financières devant alimenter le fonds d'accès universel à l'eau. Le fonds d'accès universel à l'eau, il vise les populations qui habitent les contrées reculées ou enclavées de notre pays, et qui n'ont pas d'installation appropriée pour leur alimentation en eau potable. Ceux qui sont dans les conditions à l'aise pour accéder à l'eau, suite aux efforts de l'État, il faut qu'ils contribuent à ce fonds-là pour que nos frères, nos parents qui sont dans ces conditions-là, qu'on puisse les desservir aussi. Et enfin, la sixième mission, veiller au respect des normes environnementales, sanitaires et techniques dans le secteur de l'eau. Tout à l'heure, j'ai expliqué les risques qu'on encourt à laisser faire n'importe qui, faire n'importe quoi en intervenant dans le secteur. Il faut faire en sorte que, quand on exploite l'eau, que ça ne soit pas un dommage pour l'environnement. Parce que l'eau, il y a beaucoup d'usagers. Et le premier usager, c'est la nature. Mm-hmm. Si vous prenez ça pour vous, vous oubliez la nature, mais vous n'avez rien fait. parce que ça, cette nature-là, elle joue un rôle essentiel pour la préservation et la conservation de cette ressource sanitaire, évidemment. J'ai expliqué qu'il ne faut pas que l'eau soit source de mort. Il faut, l'eau, c'est la vie, mais si on ne prend garde, vous vous rappelez certainement du cas pathétique de
Tibiri,
où toute une génération d'enfants a été compromise parce que de l'eau malpropre leur a été servie pendant des années. Et les techniques. Les techniques aussi. Vous voyez des gens qui viennent vous dire « Bon, moi, je vais vous faire un forage à 200 000. » Tandis que si vous partez chez des professionnels de forage, ils vont vous dire « Bon, votre forage, au bas mot, je vous le fais à 2 millions. » Quand ils vont vous dire que c'est à 200 000, vous devrez vous poser
des questions.
Est-ce que ce monsieur-là, il va me faire un forage
digne de ce nom?
Voilà. Donc voilà les six missions qui sont conférées à l'autorité de régulation du secteur de l'eau.
Monsieur le directeur, à quand la fin du calvaire des populations du Zander, de Tera et celle de la commune rurale d'Adelbusenat en deux minutes, rapidement.
Zander, je ne sais pas s'ils sont dans le calvaire parce que le projet Ganaram, quand même, mobilise énormément d'eau et mieux. C'est à partir de ce champ-là qu'on alimente la ville de Zander et même la ville de Miria. Donc pour vous dire que vraiment, les investissements qui ont été faits sont en train de porter leurs fruits. Est-ce que vos correspondants ou vos confrères qui sont là-bas vous ont parlé de calvaire cette année? Hein? Donc ça, je pense que je ne sais pas.
En tout cas, un véritable calvaire.
Il y a eu un véritable.
On a fait deux jours même sans se laver.
Il y a vraiment un problème jusque-là. Donc, surtout en période de chaleur.
En tout cas, les installations sont là. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de ces installations-là. Il y a comment ça s'appelle? Et il suffit de remettre ça à niveau, de faire en sorte que elle soit à la hauteur des comment ça s'appelle. Les efforts sont en train d'être faits au niveau de la semaine et au niveau de la semaine. Pour Tera, la solution serait de prendre de l'eau à partir de Gotei, et je pense que le projet est en bonne voie. Et avant ça, quand même, cette année même, au niveau de Tera, les installations ont été remises à niveau pour exploiter le barrage de Tera pour pouvoir alimenter cette localité. Au niveau de Adelbusenat, je ne sais pas exactement quel est le niveau du problème, mais je pense que lui aussi, il est pris à bras le corps par les techniciens d'Agadez ainsi que les autorités, mais aussi au niveau national. Donc, vraiment, c'est un problème général. Je ne le dénie pas. Mais les solutions, à ma connaissance, sont en train d'être prises pour que tout rentre dans l'ordre.
Ousmane Dembadji, vous avez quelque chose à ajouter rapidement?
Oui, c'est juste pour compléter le directeur par rapport à Zender. Et vraiment, Zender, les gens sont en train de souffrir. On est passé la semaine dernière sur l'instruction du ministre pour aller constater de visu la situation. On a trouvé des quartiers qui font un mois sans qu'une goutte ne tombe de la pompe, dans Zender même. On a vu le calvaire. Alors, la situation peut s'expliquer que Arunguza, qui a été construite pour, en tout cas, alimenter Zender pendant plus de 20 ans,
Arunguza,
l'eau s'est épuisée dans 5 ans. Parce que tout simplement, la Sorase qui devrait avoir son champ de captage l'a pas fait. Elle est branchée maintenant au champ de captage de Arunguza Zender. Ce qui fait que Sorase consomme deux fois l'eau plus que la ville de Zender. Maintenant, le président de la République, Youssoufou Mahamadou, pour corriger les problèmes également d'eau de Zender, a investi 21 milliards pour faire Ganaram avec 22 puits. Mais aujourd'hui, avec les coupures, les 22 puits ne se remplissent pas. À peine, on arrive à remplir 4-5 puits. Et du coup, ça ne peut pas effectivement satisfaire le besoin. Mais quand même, des efforts gigantesques ont été faits. Le 21 milliards ont permis de construire 22 puits. Les 22 puits ont été... Il y a eu un raccordement de 65 km de Ganaram à Zender. Et il y a eu de nouvelles localités qui ont été raccordées. Comme le grand frère l'a dit, Miria, il y a Dinei, il y a autres localités qui n'étaient pas raccordées avant, mais qui étaient raccordées avec cet investissement que le chef de l'État avait fait. Mais le gros du problème, c'est que Arunguza est à 24 km de Zender, mais Ganaram est à 105 km de Zender. Donc la Sorase, qui devrait avoir son champ de captage à elle, ne l'a pas fait. Alors que maintenant, si on veut que le problème, en tout cas, soit résolu définitivement, on propose en tout cas que ce race à la langue puisse avoir son champ de captage et puis puiser son eau à part et laisser peut-être l'autre.
Ousmane Damadji, rapidement, quels sont vos conseils, propositions ou recommandations pour un meilleur accès des populations à une eau potable et en quantité au Niger rapidement?
Les conseils, il y en a plusieurs, mais quand même le plus important, le premier conseil, c'est ce que le grand frère a dit par rapport au transfert de compétences, que les collectivités qui ont en charge aujourd'hui de la gestion déléguée avec les délégataires puissent la faire correctement pour que l'eau ne soit pas effectivement coupée au niveau des villages. C'est-à-dire mettre des dispositifs qui ne permettent pas à ce que les forages tombent en panne. En ville, c'est-à-dire c'est de ne pas gaspiller l'eau et réformer encore une fois de plus le secteur de l'eau. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, comme il a dit, on ne paye pas le prix de l'eau, mais on paye tout simplement le service. Et nous avons au Niger, on paye le plus petit service au Niger. Et avec les petits qu'on paye, imaginez, on ne peut pas avoir beaucoup d'argent qui vont rentrer et faire de nouveaux investissements. Imaginez, il faut consommer 1000 litres pour payer 127 francs pour la tranche sociale de 0 à 10 mètres cubes. Alors, si à 1000 mètres, on paye 127 francs, et qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de gaspiller l'eau, surtout les services de l'État. Quand tu prends aujourd'hui les compagnies militaires, je suis obligé de le dire, quand tu comprends les universités, le ministère, tu vas trouver les trucs qui sont gâtés, les pompes, comment on appelle ça là, le robinet qui est cassé pendant un an, deux ans, l'eau coule. Moi, à Zander, un moment, on a vu un robinet qui coulait pendant 40 ans à la compagnie de Tanimoun. Donc, vous voyez, ça c'est des gaspillages qui ne permettent pas, en tout cas, au système de stabiliser. Et je pense que la meilleure solution, c'est d'augmenter le prix de l'eau pour ceux qui en consomment plus de 10 mètres cubes, et pour ceux qui gaspillent, effectivement, cela va nous permettre d'avoir des ressources intéressantes et importantes pour pouvoir faire de nouveaux investissements et permettre aux pauvres d'avoir accès à cette eau. Parce que qu'est-ce que le PROSEA a dit? Le PROSEA a dit de 2016 à 2030, l'eau va être disponible dans les robinets, dans les concessions, en ville comme en campagne. Donc l'État n'est pas à avoir de financement, de l'argent pour pouvoir faire des investissements tant que nous-mêmes n'avons pas soutenu le secteur. Imaginez, nous, on peut aller payer une bouteille d'eau minérale à 500 francs, on ne sait même pas dans quelles conditions cette eau a été mise en bouteille. On peut aller payer Piawata, on ne sait même pas dans quelles conditions, combien de Piawata on peut utiliser la journée, alors qu'on ne peut pas accepter une augmentation de 25 francs, de 50 francs, c'est 1000 litres cubes. C'est 1000 litres, autant pour moi.
En ce 21e siècle, l'accès à une eau potable propre et de bonne qualité est depuis peu considéré comme étant un droit de l'homme. Au Niger, ce droit semble ne pas être un acquis pour une importante partie de la population. Ce manque d'accès à une eau potable crée donc des inégalités. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Abou Kouré Djakou, ingénieur hydrogéologue au ministère de l'Hydraulique, et Ousmane Dambadji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir. Merci.